France Inter, le 6-9 du week-end, Pierre Veille.
Ils sont des millions de jeunes Français sur tout le territoire. Ils vivent dans une France dite périphérique, dans des campagnes, des villages, des petites villes, loin des grandes métropoles. Et pour ces millions de jeunes, tout est plus difficile. Les raisons sont nombreuses et on les découvre dans un livre qui vient de paraître, Les Invisibles de la République, paru chez Robert Laffont. Livre écrit par Salomé Berlioux et Erki Maillard. Ils sont nos invités. Salomé Berlioux, bonjour.
Bonjour.
Erki Maillard, bienvenue dans ce studio.
Bonjour.
Vous vous intéressez dans ce livre à des territoires où vivent plus de la majorité des Français. Il faut le rappeler, 34 000 villes et villages. Erki Maillard.
Oui, c'est vrai. Le problème qu'on décrit dans ce livre concerne non pas des milliers ou des centaines de milliers, mais des millions de jeunes Français. Et si on a voulu écrire ce livre, c'est parce qu'on a eu la conviction, après 3 ans d'action sur le terrain, au travers d'une association que préside Salomé, qu'il y avait un problème urgent et un problème dangereux, qu'il était important d'en faire part, d'en parler.
Alors, vous racontez dans ce livre, vous décrivez de façon très précise tous les obstacles qui sont là sur la route de ces millions de jeunes qui vivent dans cette France périphérique. Salomé Berlioux.
Oui, parce qu'en fait, ce qui fait la particularité du parcours de ces jeunes, qu'ils grandissent dans le sud de la France, qu'ils grandissent dans les Vosges, qu'ils grandissent dans la Nièvre, c'est l'accumulation d'obstacles qu'ils rencontrent. C'est-à-dire que c'est pas un obstacle, mais c'est à la fois, dans certains cas, le manque d'information, l'assignation à résidence, et c'est un terme très fort, mais qu'on voit vraiment beaucoup, à la fois le manque d'opportunités, parfois culturelles, parfois académiques, parfois professionnelles à proximité. C'est l'autocensure, c'est la fracture digitale.
Mais alors expliquez-moi, par exemple, quand vous parlez d'assignation à résidence, concrètement, donnez-nous des exemples.
Mais par exemple, une jeune fille qui grandit dans le sud de la France, un petit village dans les Pyrénées-Orientales et qu'on a interrogé pour le livre, qui alors de faire ses études supérieures, ses professeurs lui disent « Mais Charlotte, tu pourrais faire médecine, tu es extrêmement bonne en sciences, tu as l'air d'être sensible à ces sujets, pourquoi ne pas aller dans cette voie-là » Et elle se dit « Bah oui, mais en fait, comment faire ? Parce que aller faire médecine, ça veut dire aller à Montpellier. Montpellier, c'est à 2 heures de train. Après, ça coûte cher. Il faut que mes parents payent une chambre pour moi d'étudiante à Montpellier. Or, il y a 3 frères et sœurs qui viennent ensuite. Et puis, par ailleurs, et c'est là où il y a un biais psychologique aussi, et des croyances limitantes et de l'autocensure, elle se dit « Oui, mais je ne connais pas de médecin, à part le médecin de la famille, mais dans ma famille, il n'y a pas de médecin, dans le village d'à côté non plus. Je ne connais pas d'étudiant en médecine, ce n'est pas fait pour moi et je n'en serais pas capable. » Et c'est la raison pour laquelle elle se tourne vers des études d'infirmier, parce que c'est plus proche, parce qu'elle pourra rester chez elle. Et donc, évidemment, c'est un très beau métier infirmier, mais dans son cas, on va dire que c'est de l'ordre du subi plutôt que du choisi.
Et dans ce livre, il y a des mots qui reviennent extrêmement souvent. C'est un livre qui est inquiétant, le constat qui est fait dans ce livre. Assignation à résidence, vous venez de le dire, c'est la galère, l'ennui. Erki Maillard.
Non, c'est vrai que le constat est inquiétant et encore une fois, c'est pour ça qu'on a voulu écrire ce livre, parce que on pense que c'est dangereux à la fois pour les jeunes, ces millions de jeunes, parce que ce sont autant de jeunes qui pourront pas faire les études qu'ils veulent suivre ou la carrière qu'ils ont envisagée. Et puis, on pense aussi que c'est dangereux à l'échelle du pays, pour la cohésion nationale, tout simplement, d'avoir des millions de jeunes qui peuvent avoir ce sentiment d'être un peu à l'écart, un peu relégué.
Et vous racontez dans cet ouvrage les bulles éducatives. J'ai retenu l'histoire à Cavaillon, l'histoire de Pierre, qui a quitté le lycée de sa ville pour faire sa terminale à Paris. Et là, c'est l'échec total. Il s'est retrouvé dernier de la classe. Quel enseignement tirer de cette aventure vécue par ce garçon qui vient de Cavaillon ?
Ce que nous racontait sa mère quand on l'a interrogée, c'est le fait que elle avait absolument voulu anticiper la suite de ses études en lui disant « Bon bah très bien, tu vas avoir envie de faire une classe prépa. Nous, on grandit en dehors de ces grandes métropoles-là. Allons-y, on mise sur toi et on va faire en sorte que tu acquières un certain nombre de codes et que tu sois prêt pour entrer en prépa. Donc, va à Paris. » Et le jeune homme En fait, psychologiquement, et d'ailleurs ça c'est quelque chose que les professeurs nous disent beaucoup, ils nous disent souvent, on n'est pas certain de vouloir envoyer nos jeunes étudier dans une grande métropole parce que on a peur pour eux. Et en fait, c'est de la protection aussi qui fait que parfois les enseignants ou les familles disent vraiment, est-ce qu'il faut y aller, parce que ces jeunes-là ne sont pas forcément prêts pour ce saut qui ensuite relève des codes, de la confiance en soi. C'est un autre exemple qu'on donne dans le livre, mais un jeune qui arrive à l'oral d'une école de commerce, alors ses parents sont garagistes, il a réussi à la force du poignet à aller étudier et à passer ce concours-là d'école de commerce, et le professeur qui l'interroge, enfin le membre du jury, lui dit, mais est-ce que, je comprends pas trop, comment vous vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait le soir après l'école, vous êtes rentré chez vous, vous avez regardé des séries et vous avez pris votre goûter, ou comment ça se fait que vous n'ayez pas d'engagement associatif, que vous n'ayez pas fait de stage? Et le jeune homme nous raconte à Erki et à moi, bah en fait pardon, mais en fait je faisais une heure de bus le matin, une heure le soir, ensuite j'ai aidé mes parents au garage, après j'ai beaucoup travaillé pour rattraper mon retard, donc oui, j'ai pas fait de stage, mais je suis là et c'est ça qui compte. Et le jeune homme n'a pas eu cette école de commerce, c'est quand même ça qui est fort.
Alors, ce livre, Les Invisibles de la République, comment on sacrifie la jeunesse de la France périphérique, ce livre, vous l'avez écrit avant la crise des Gilets jaunes. Est-ce que ces jeunes que vous décrivez, ces jeunes sont-ils des enfants de familles de Gilets jaunes ? Erki Maillard.
Il y a sûrement dans les jeunes qui ont témoigné dans ce livre ou qu'on accompagne avec l'association Chemin d'Avenir, des enfants de Gilets jaunes. Et c'est vrai que dans la crise actuelle, il y a un écho qui est donné à la situation de ces territoires périphériques. Alors nous, on a voulu centrer le livre sur la question de la jeunesse, qui d'ailleurs n'est pas abordée tellement dans encore aujourd'hui, y compris dans le mouvement des Gilets jaunes. Et on a voulu mettre en évidence cette situation qui est complètement dans l'angle mort des politiques publiques depuis maintenant très longtemps, encore une fois parce que on considère que c'est une situation qui est très dangereuse.
Et il y a cette phrase que j'ai trouvée dans ce livre, qui s'occupe de l'avenir des jeunes des Spelettes, de Comines, de la Charité-sur-Loire, de Brive-la-Gaillarde, de Pont-en-Royan, de Chinon, Mâcon, Pézenas ou Jeumont? Ce livre, c'est un gros plan sur les inégalités territoriales, et il y a le constat des difficultés et aussi des propositions, puisque vous avez fondé, Salomé Berlioux, une association pour tenter de lutter contre ces inégalités qui touchent des millions de jeunes.
Oui, c'est la troisième promotion de l'association Chemin d'Avenir qu'on a créée avec Erki il y a 3 ans. Donc, c'est une association qui accompagne ces jeunes parce que le constat il était là et qu'on trouvait qu'il fallait qu'il y ait une structure centrée sur ces jeunes-là. Cette association, elle informe, elle accompagne et elle cherche à mettre en lumière les collégiens, lycéens et étudiants de ces territoires à travers plusieurs leviers d'action, des leviers très concrets. Par exemple, le parrainage individuel. Et ça, on explique bien dans Les Invisibles de la République que c'est un levier qui ne coûte pas cher, qui a l'avantage en plus de fédérer parce que ça associe des générations différentes, des territoires différents, des professions différentes au profit de ces jeunes-là. Et c'est vraiment le parrainage ou le mentorat, ce qui est très bien fait dans certains cas, pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville ou pour, par exemple, les jeunes femmes. C'est un levier d'ascension sociale et de réalisation de soi extrêmement puissant.
Erki Maillard ?
Oui, c'est vrai qu'on a voulu aussi mettre une partie importante de ce livre avec des propositions, des solutions, parce que le but du livre, c'est bien sûr de dénoncer une situation dangereuse, mais c'est aussi et surtout, enfin, c'est pas opposer des deux côtés de la France ou les villes contre les campagnes. On pense que ça, c'est stérile et même problématique, mais vraiment de retisser des liens entre deux communautés, entre les citoyens, pour faire société.
On se retrouve dans quelques secondes. Si vous voulez interroger Salomé Berlioux et Erki Maillard, auteur de ce livre « Les Invisibles de la République », appelez-nous 01 45 24 7000 si vous êtes concerné par cette vie difficile dans ces zones un peu isolées, abandonnées, qui se sentent un peu exclues du territoire, avec un manque d'infrastructures, un manque de liens. Appelez-nous au standard 01 45 24 7000. Question pour Salomé Berlioux et Erki Maillard qui publient Les Invisibles de la République. Patricia Martin.
Oui, ces invisibles qui ont été éclipsés en quelque sorte, et vous le dites dans votre livre, vous l'écrivez, par les jeunes de banlieue. Or, moi, ce qui m'a frappé à vous lire, c'est de constater le nombre de points communs qu'il y a entre ces jeunes de banlieue et ces invisibles. Les questions déjà de famille, des foyers souvent foyers monoparentales, le chômage, les difficultés inégalités d'accès à la culture, le fait de se dire c'est pas pour moi, c'est-à-dire cette espèce de plafond de verre, de toute façon de rester différent toute sa scolarité. Il y a la méconnaissance, vous le disiez tout à l'heure, de certains codes, le manque de vraies informations. C'est assez affolant et on se dit quelle faillite de la part des adultes vis-à-vis de sa jeunesse.
Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle d'égalité des chances et qu'on a la conviction que c'est un sujet qui est profondément politique en réalité et qu'il faut aussi justement une parole de l'État sur ces thématiques-là parce qu'il s'agit à la fois dans les quartiers prioritaires de la ville et dans ce qu'on appelle là, pour résumer, la France périphérique, de millions de jeunes qui n'ont pas les mêmes chances de départ que d'autres jeunes qui grandissent dans le cœur de Lille ou dans le cœur de Toulouse. Et vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de points communs marquants.
Je dis ça parce que moi je m'occupe d'Interclasse, oui, sur France Inter, qui a été mis sur pied par notre directrice Laurence Bloch. Bon, bah, c'est évident que c'est venu au lendemain des attentats. Donc c'était après les fake news, etc. C'est dans un point précis. On les fait travailler sur des émissions. Mais de voir leur réalité aller dans les collèges et les lycées de banlieue, c'est exactement la même chose.
Oui. L'autocensure, par exemple, c'est marquant. Ben et oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on s'inspire d'initiatives, de dispositifs qui existent pour les uns, afin de les développer pour les autres, et que c'est vraiment une logique qui consiste à compléter. Mais qu'en revanche, pour ça, il faut voir le problème et le regarder en face.
Vous parlez des ravages de l'autocensure. Oui. Hein. Vous avez tout un chapitre intitulé comme ça. C'est
exactement
fort.
Oui, avec des exemples.
Mais vous avez raison, et d'ailleurs quand on a monté l'association, on a eu beaucoup de contacts avec les autres associations qui s'occupent de banlieue et qui nous aident beaucoup, y compris en termes de méthodologie.
Des questions au standard 01 45 24 7000. Hugues est avec nous, bonjour Hugues.
Bonjour, moi ma question c'est plus une observation que des questions. Je dis que est-ce que la difficulté de la France qui a été soulevée par les gilets jaunes et par la France dite un peu oubliée, etc., n'est pas dû aussi au trop nombre de communes en France. Par rapport à l'Europe, on a 35 000 communes en France, alors que j'ai regardé sur Internet, c'est accessible par tout le monde en tapant communes. Par exemple, en Espagne, en Italie, c'est 8 000 environ chaque pays. En Allemagne, c'est 12 000. Mmh. Et au Royaume-Uni, c'est 1 200. Donc 12 000 et il y a 80 millions d'habitants en Allemagne. Donc nous on a 35 000 communes. C'est absolument impossible de desservir correctement 35 000 communes au point de vue administratif, sauf à coûter, Macron, un argent dingue.
Alors,
donc est-ce que nos difficultés ne sont pas dues aussi à un trop grand nombre de communes en France, est-ce que par rapport aux autres pays européens?
On va vous répondre, Hugues Erquimaillard. C'est vrai, c'est une des caractéristiques de la France, des dizaines de milliers de communes.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu deux questions dans la question de l'auditeur. Il y a une première question qui est une question de moyens, savoir est-ce que ça coûte pas trop cher d'avoir tout ce réseau de communes, et peut-être que là il y a besoin de les regrouper, d'avoir un mouvement où les communes travaillent ensemble. Nous, ce qu'on voit en tout cas sur le terrain, et ça c'est le deuxième élément, c'est la question de la proximité avec les élus. Et c'est vrai que de même qu'on travaille beaucoup avec l'éducation nationale, et les professeurs font un boulot formidable, et les proviseurs, les élus locaux aussi, ce sont des gens qui sont très proches de ce terrain. Et donc il faut peut-être qu'il y a besoin de rationaliser la carte administrative, comme on dit, mais du côté des communes, nous on pense que c'est bien d'avoir un échelon de proximité très proche de ce terrain, parce que la caractéristique aussi de la France, c'est d'avoir un habitat qui est très éclaté. Et c'est une des difficultés pour traiter ce sujet, c'est que les jeunes sont éloignés, mais ils sont aussi éclatés sur le territoire.
Geneviève est avec nous, elle écoute France Inter ce matin. Bonjour Geneviève, vous êtes en Haute-Savoie.
Oui, bonjour, bonjour à l'équipe.
Allez-y.
Oui, en fait, moi je me posais une question. Est-ce que le service militaire n'était pas un bon moyen pour permettre aux jeunes de sortir de leur village, de leur trou, enfin sans que ce soit péjoratif, et un brassage et des connaissances entre les jeunes? Voilà, c'est une question.
Oui, mais le service militaire, il a disparu et maintenant on essaie de mettre en place un service national universel. Est-ce que ça peut être une solution, Salomé Merlioux?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Le fait qu'il y ait un moment chaque année pour une même classe d'âge permettant à des jeunes de différents milieux sociaux, de différents territoires, de se retrouver, de partir de chez eux éventuellement pour un temps précis, de découvrir d'autres modes de vie, ça peut vraiment changer les choses. Et notamment, et ça je pense que c'est très important, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans le livre, ça peut aussi permettre de déceler des potentiels, parce que c'est vraiment ce message-là. Le fait que dans ces territoires, il y a énormément de potentiels qu'il faut aller chercher.
Mais c'est un temps rêvé de la cohésion sociale, finalement, dont on pourrait s'inspirer.
Non, je suis pas sûr. Enfin, ce qui est vrai, c'est que nous, on se dit que, en ce moment, il y a beaucoup de fractures et que plutôt que d'insister lourdement sur les fractures, de mettre du sel sur les plaies, l'idée est plutôt quand même de se rapprocher et d'avoir que les différentes parties du pays travaillent ensemble. Et c'est vraiment la responsabilité de tous. D'ailleurs, c'est pas l'élite qui doit s'occuper de ce problème, ou c'est vraiment tout le monde.
Et dans ce livre, vous faites des comparaisons avec les États-Unis, l'Amérique de Trump, ce sentiment de relégation, il existe en France et pour vous, il est très important aussi aux États-Unis.
Oui, alors on n'est pas allé sur place, mais on a regardé effectivement ce sujet pour être très honnête, parce qu'on se disait peut-être que il y a des bonnes solutions à prendre ailleurs et un modèle. On n'a pas trouvé de modèle, mais ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a d'autres pays, et c'est vrai du Royaume-Uni comme des États-Unis, où cette fracture entre des zones qui sont loin de la mondialisation en fait, ou qui ont été pénalisées d'une certaine manière par la mondialisation, elles sont très frappantes ces fractures. En revanche, on n'a pas trouvé d'éléments spécifiques sur la jeunesse. Mais oui, l'Amérique de Trump qui a voté Trump ou le Royaume-Uni qui a voté Brexit, ce sont beaucoup des parties de ces territoires qui se sentent éloignées de la mondialisation.
Et que dites-vous à ceux qui affirment que finalement tous ces Français qui vivent dans ces zones périurbaines, dans ces campagnes, ils ont une qualité de vie ? Et que finalement, ils ne sont pas tellement à plaindre sur ce point, Salomé Berlioux.
Alors, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une vraie qualité de vie différente dans ce qu'on appelle caricaturalement la province. Moi, j'ai grandi dans l'Allier. C'est vrai qu'on a un jardin. C'est vrai que la qualité de l'air est incomparable. Le prix du foncier n'a rien à voir. Et puis, il y a de la solidarité. Tout ça, c'est vrai. En revanche, au moment de l'adolescence, au moment de l'orientation, quand il s'agit de faire des choix académiques et professionnels, il y a cette accumulation d'obstacles là pour les jeunes, et c'est en faveur de ces jeunes-là qu'il faut agir, parce que ça devrait être possible de vivre justement dans ces territoires et d'avoir autant de chances que les jeunes qui grandissent dans les grandes villes de réaliser son potentiel et de se réaliser soi-même.
Merci à nos invités Salomé Berlioux et Erki Maillard qui publient donc chez Robert Laffont Les Invisibles de la République, comment on sacrifie la jeunesse de la France périphérique, l'occasion de découvrir une France qu'on connaît finalement très peu. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci.